VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Abidjan, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par le conflit en Syrie. L'opposition syrienne a accusé ce mardi le régime du président Bachar al-Assad d'avoir mené une attaque chimique qui a fait des dizaines de morts dans un fief rebelle et djihadiste du nord-ouest du pays. La coalition nationale, importante composante de l'opposition syrienne, exhorte le Conseil de sécurité de l'ONU à convoquer une réunion urgente et ouvrir une enquête immédiate. La France a demandé cette convocation d'urgence, a déclaré par la suite le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault dans un communiqué. L'utilisation d'armes chimiques constitue une violation inacceptable de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et un nouveau témoignage de la barbarie dont le peuple syrien est victime depuis tant d'années, précise le chef de la diplomatie française. Selon l'opposition syrienne, l'attaque chimique a fait au moins 58 morts et près de 170 blessés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme souligne qu'au moins 11 enfants figurent parmi les personnes tuées dans le raid aérien qui a frappé tôt ce matin la localité de Khan Cheikhoun dans la province d'Idleb. Pour sa part, l'aviation russe annonce n'avoir mené aucun bombardement dans la zone en question. Actualité américaine maintenant, réchauffement dans les relations entre l'Égypte et les États-Unis. Le président Donald Trump a promis à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qu'il recevait lundi à la Maison Blanche, de mener ensemble la lutte contre les islamistes armés. Je veux que chacun sache, s'il y avait le moindre doute, que nous sommes totalement derrière le président Sisi, a déclaré Donald Trump lors de leur rencontre dans le bureau ovale. Les deux leaders souhaitent donner un nouvel élan aux relations bilatérales. Sébastien Gorka, un conseiller du président Trump, explique.
I'm not going to comment on concrete figures. I'm not a spokesman for the president or for the National Security Council.
Je ne veux pas commenter sur les chiffres concrets. Je ne suis pas un porte-parole du président ou du Conseil de sécurité nationale, mais nous savons que l'aide doit être beaucoup plus rationnellement programmée qu'elle ne l'a été au cours des 8 dernières années. L'administration Obama a causé de grands désagréments au gouvernement du président Sisi, qui faisait face à une menace croissante. Donc, je ne veux pas parler de montants en dollars, mais je peux vous garantir que notre relation avec le Caire sera beaucoup plus forte que pendant les années d'Obama.
With Cairo will be much, much stronger than it was under the Obama year.
Sébastien Gorka, un conseiller du président américain Donald Trump. Afrique maintenant, RDC, le président Joseph Kabila procède depuis lundi soir à des consultations directes avec les signataires de l'accord du 31 décembre, dont les négociations sur l'arrangement particulier ont échoué la semaine dernière. Les pourparlers ont achoppé sur la désignation du Premier ministre et du président du Conseil national de suivi de l'accord. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Trois des quatre délégations prévues dans le programme ont été reçues par Joseph Kabila. La première, la société civile signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine, recommande un consensus autour de la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre dernier. Ensuite, l'opposition républicaine de Léon Kengouadon doit échanger avec le chef de l'État. Mais au sortir de l'audience, le président du Sénat s'est refusé à tout commentaire. Le troisième groupe à être reçu fut l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, conduite par Vital Kamerhe. Le président de l'UNC a rappelé la nécessité d'appliquer l'accord du 31 décembre pour sortir le pays de la crise actuelle, tout en soulignant que l'opposition qu'il conduit est candidate à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, poste que devait occuper le défunt Étienne Tshisekedi et qui, dans l'accord, revient au président du Conseil des sages du Rassemblement. Brillée par son absence, la société civile non signataire de l'accord du 18 octobre est proche du Rassemblement, qui dit n'avoir pas reçu d'invitation. Faux, rétorque le protocole d'État approché par Top Congo FM pour qui des invitations étaient envoyées à tout le monde au même moment. Ce mardi, Joseph Kabila échange avec toutes les plateformes signataires de l'accord du 31 décembre, notamment le Rassemblement, le Front pour le respect de la Constitution que devait conduire la secrétaire générale Eve Bazaïba et la majorité présidentielle. C'est seulement après ces échanges que Joseph Kabila va s'adresser comme promis à la nation à travers le Parlement réuni en congrès. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, le gouvernement accuse les groupes séparatistes dans les régions anglophones d'être derrière les incendies de bâtiments publics, dont celui du grand marché de Limbé. Ces destructions ont provoqué de nouveaux appels au dialogue pour mettre fin à la grève de 5 mois dans les zones anglophones. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka, présenté par Morgan Guiriek.
L'incendie du marché de Limbé, samedi, a duré 4 heures. 50 magasins ont été détruits. Un suspect, membre présumé d'un groupe sécessionniste, a été arrêté, d'après le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilay. Le suspect a déjà dénoncé bon nombre de ses complices et ceux qui sont liés à cet acte de terrorisme devront répondre de leurs actes. Nous voulons appeler la population du Sud-Ouest à la paix et je veux rassurer la population de Limbé. L'administration est là avec les forces de l'ordre pour les protéger. L'incendie du marché de Limbé met en évidence les dangers et l'impasse grandissante dans les deux régions anglophones du Cameroun. Des avocats et des enseignants anglophones sont en grève depuis novembre. La plupart des écoles sont fermées et les entreprises sont paralysées. Les grévistes exigent des réformes contre l'utilisation écrasante du français dans ce pays bilingue. Certains grévistes exigent un retour au fédéralisme, d'autres appellent à l'indépendance des zones anglophones. Plusieurs écoles, résidences privées, postes de police, bâtiments administratifs ont été brûlés. Ces actes n'ont pas été revendiqués. Le législateur Enoh Tangjong de la région du Sud-Ouest s'est adressé à ses collègues sénateurs le 13 mars. J'aimerais souligner et fustiger l'incendie criminel qui a ravagé la faculté de médecine de l'université de Bamenda et la destruction du bloc administratif de l'école secondaire d'Akwaya. L'élite politique, les personnalités religieuses, les membres de la société civile et les chefs traditionnels ont tous rejoint le chef de l'État dans son appel au dialogue et à la paix. À l'occasion d'une visite à Bamenda, il y a 2 semaines, le Premier ministre camerounais a estimé que les incendies étaient des tentatives d'exercer une pression sur le gouvernement. En réponse, le gouvernement a coupé Internet dans les zones anglophones et procédé à de nombreuses arrestations, dont 3 leaders accusés d'être liés aux violences. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent la peine de mort, selon la loi antiterroriste du Cameroun. Les négociations pour mettre fin à la grève ont échoué lorsque l'État a refusé de relâcher les détenus. Le député Joseph Banadzem du SDF, parti principal d'opposition, appelle à un compromis. Le gouvernement et les grévistes devraient revenir à la table des négociations. L'une des conditions est la libération de ceux qui négociaient avec le gouvernement et qui ont été arrêtés et amenés à Yaoundé. La peine n'a pas de prix. On devrait pouvoir les amnistier, libérer ces personnes et laisser les écoles ouvrir. À plusieurs reprises, le président Paul Biya s'est dit ouvert au dialogue, mais n'était pas prêt à libérer les suspects ni ouvrir des discussions qui remettraient en cause l'unité nationale du Cameroun.
En Afrique du Sud, le grand coup de balai au sein du gouvernement fait des remous dans l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir, qui est plus que jamais divisé. L'opposition cherche à s'engouffrer dans la brèche pour déposer une énième motion de censure contre le président Jacob Zuma, Abdourahmane Dia.
C'est une levée de boucliers. La commission d'intégrité de l'ANC s'est dite profondément perturbée par l'absence de consultation. Le vice-président Cyril Ramaphosa a qualifié d'inacceptable le limogeage de Pravin Gordhan, le très respecté ministre des Finances. Moussi Maïmane, le leader de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, a appelé aux côtés de 4 autres formations, dont les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, à l'organisation d'un vote de défiance au Parlement pour faire partir Jacob Zuma. La présidente du Parlement, Malika Mbete, est rentrée en toute hâte du Bangladesh. L'ANC dispose d'une confortable majorité avec 249 sièges sur les 400 au Parlement. M. Zuma a déjà survécu à plusieurs motions de défiance, mais les divisions de sa majorité pourraient rebattre les cartes. Au plan économique, l'agence Standard & Poor's a dégradé hier la note de la première économie du continent. Le rand sud-africain, depuis vendredi, a perdu beaucoup de sa valeur face au billet vert.
Et pour terminer, l'attentat de lundi à Saint-Pétersbourg en Russie a fait au total 14 morts et 49 blessés. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.